Léon s'assit, le bouton de gant. Le banquier, Adam Montfer, dit à Paulin Broquet, le célèbre détective, « Je vous ai prié de venir me voir parce que seul votre remarquable flair, votre merveilleuse intuition et votre incomparable science de déduction seront probablement tirer au clair une affaire aussi compliquée que délicate qui peut provoquer des larmes, amener la honte, causer des deuils peut-être. Vous me voyez anxieux, effrayé par la perspective des tristesses, des malheurs qui peuvent survenir. Et cependant, je suis fermement décidé à marcher jusqu'au bout. Jusqu'au bout, bien, monsieur, dit Paulin Broquet. Après quelques secondes, le silence accordé au travail de sa pensée, il reprit gravement. C'est le chef d'une des premières polices, maisons de banque de Paris, qui me convoque. Il s'agit d'un vol, sans aucun doute. Oui, parfaitement. Oh, vos angoisses, autant que votre souci de ne pas déposer une plainte au parquet, et de me consulter, tout d'abord, me disent que vos soupçons se portent sur quelqu'un vous touchant de près. Les compliments que vous m'avez adressés en premier lieu m'indiquent que, si vous espérez connaître le coupable et désirez le punir, vous ne tenez cependant pas à provoquer un scandale et que vous voulez atténuer autant que possible le malheur. Oui, c'est cela. » Enchanté d'avoir été ainsi compris, deviné par le subtil détective, le banquier soupira, comme soulagé d'une partie du poids de son angoisse. « Vous fumez beaucoup, je sais. Voulez-vous une cigarette ? » dit-il, en posant sur son bureau une boîte de cigarettes devant le détective. « Non, merci, » répondit Paulin Broquet. « J'ai la manie de faire moi-même mes cigarettes. Si vous le voulez bien, j'en roulerai un tout en vous écoutant. » Le banquier acquiesça. Il prit lui-même dans la boîte une cigarette qu'il glissa dans un bout de rond pour faire baguette dehors. Paulin Broquet tira de sa poche une blague en argent, un cahier de papier et roula minutieusement une cigarette, disant à M. Adam Montfer « Veuillez m'exposer l'affaire dans tous ses détails, sans négliger les plus menus, principalement ceux-là, ceux même qui pourraient vous paraître inutiles ou sans importance. » « Oh, les détails ne sont pas nombreux, » fit le banquier. « L'affaire est toute simple. » La voici. Un de mes amis, homme du monde, en dehors de la finance, le comte de Jarlet, est venu jeudi dernier vers 2 heures me rendre une somme de 100 000 francs que je lui avais prêtée, il y a quelque temps, sur ma caisse personnelle. Et ces 100 000 francs ont disparu, fit le détective. Il faut savoir comment et découvrir celui qui les a pris. Voilà. « Oui, voilà, c'est pas aussi simple que vous le supposez. Je présume que cette affaire comporte au contraire de sérieuses complications et nous ménage de grandes surprises. » Le banquier Adam Montfer écoutait avec anxiété le détective et tournait vers lui ses yeux effarés. « Cette somme de 100 000 francs, reprit Paulin Broquet, prêt personnel, vous a par conséquent été remise en main propre. » Sans passer par la caisse, sans l'accompagnement des écritures habituelles. Bien oui, c'est ici-là, sur mon bureau, que le comte de Jarlet l'a déposée. Elle consistait en 10 paquets de 10 000 francs qu'il venait de toucher, quelques instants auparavant à la société Hosselpon de la rue Lafitte. Oui, je connais, les 10 paquets étaient probablement, selon la coutume, épinglés avec des talons de papier. Parfaitement. C'est pas un indice. Toutes les maisons épinglent ainsi les paquets de papier de banque. Sans doute, mais toutes les maisons n'ont pas le même papier. Pour faire ces talons, les caissiers emploient du papier résistant, souvent d'anciennes lettres de leur banque. Oui, souvent, c'est exact. Et peut-être les talons des paquets touchés par le comte de Jarlet à la société Russo-Nippon portait-il des caractères russes ou japonais, facilement reconnaissables? En effet, oui, je n'ai pas naturellement compté les billets devant le comte de Jarlet, mais j'ai pu cependant remarquer des caractères russes sur les talons qui maintenaient chaque paquet. Par conséquent, si nous retrouvons chez le caissier trace de ses talons, il n'y aura pas eu vol, comme vous le redoutez, mais simple oubli d'enregistrement du dépôt. Alors, pardon, cette somme n'avait pas à passer par la caisse de la banque. C'était, je vous l'ai dit, une affaire personnelle, purement amicale. J'ai moi-même déposé les 10 paquets dans mon coffre privé, qui est dans mon bureau, celui-ci. Avez-vous souvent la visite de cliente? Paulin Broquet, tournant les yeux vers le banquier, dit en insistant de façon toute particulière, permettez-moi de vous demander si c'est un fait certain, si vous avez réellement mis là 10 paquets dans votre coffre. Oh, parfaitement, affirma le banquier. J'en suis absolument sûr, car là, depuis, j'ai cherché, fouillé sur tous les rayons, sans rien trouver. Très calme, Paulin Broquet jeta sa cigarette dans le cendrier et se levant ajouta: Voulez-vous que nous regardions ensemble dans le coffre? Généralement, celui qui cherche est nerveux, il dérange tout inutilement. Il arrive parfois qu'un autre est plus heureux. Ben, regardez donc. Le banquier se leva à son tour et il conduisit Paulin Broquet au coffre qui se trouvait scellé dans un grand panneau de mur à l'autre bout de la pièce. Monsieur Bonfier tenait en main la clé. Il allait ouvrir. Paulin Broquet l'arrêta. Pardon, fit-il, laissez-moi d'abord examiner le coffre. Paulin Broquet promena la loupe dont il se servait toujours pour ses recherches sur la serrure, sur les jointures, et il étudia les moindres rainures du meuble d'acier. Pas de traces d'effraction, dit-il enfin, pas même des raflures. Donc, si ce coffre a été ouvert à votre insu, il l'a été par quelqu'un disposant de la clé et connaissant le secret du mot. Qui donc était à même? Mon fondé de pouvoir et caissier principal, M. Jacques Raymond, et mon fils André. Que le caissier ait le moyen d'ouvrir votre coffre, cela s'explique. J'ai pris Jacques, déclara le banquier, à la mort de son père. Un de mes amis, qui, très riche, se ruina dans des spéculations de mine d'or. Jacques est depuis 12 ans chez moi. Je le regardais comme un de mes enfants. Il méritait votre confiance. Oui. Et maintenant, je ne peux pas encore me résoudre à... Pardon, interrompit le détective. Mais pourquoi votre fils André a-t-il également le privilège de pouvoir ouvrir ce coffre? Ben, j'ai voulu prendre André avec moi, l'initier à la banque, mais j'ai dû y renoncer. Mon fils n'aime que la grande vie, la vie parisienne, la fête. Comme un fils dont le père est très riche. Permettez-moi de vous poser une question encore. Quel jour avez-vous mis dans ce coffre les 100 000 francs? Jeudi dernier, le 15 mai. Et saviez-vous que mercredi soir, oui, je le tiens des rapports de la brigade de jeu, votre fils André a perdu au cercle 30 000 francs? Oui, il m'a demandé cette somme jeudi matin. Mais là, de toujours payer ses folies, j'ai cette fois refusé catégoriquement. Mais la dette a été payée cependant, insinua Paulin Broquet. Le banquier laissa tomber ses bras dans un geste d'accablement, et secouant la tête dans un soupir désolé, il dit: Je le sais, c'est pour cela, hélas. Mais Paulin Broquet interrompit les doléances du banquier. Tout à coup, il se baissa. Allongeant ses doigts dans l'angle que le coffre formait avec le mur, il ramassa un objet de forme particulière, qu'il tourna et retourna dans la paume de sa main, et qu'il étudia attentivement avec sa loupe. Regardant enfin le banquier du coin de l'œil, il lui demanda: Avez-vous souvent la visite de clientes, de femmes dans votre cabinet? Rarement. D'ailleurs, vous les faites asseoir dans le fauteuil, là-bas, devant votre bureau, n'est-ce pas? Le coffre-fort en est loin, tout au bout de la pièce. Vous n'avez aucune raison de les amener jusqu'ici. Oh non, aucune. Après un court silence, Paulin Broquet demanda encore: Vous avez une fille, je crois. Cécile, oui. Elle porte des gants blancs en peau très fine, des gants de luxe. Oui, toujours, en effet. C'est une de ces coquetteries de jeune fille. Des gants de fabrication anglaise? Anglaise, s'écria Monsieur Monnier en tressaillant. Je ne sais pas, où voyez-vous cela? Puisque les clientes ne sont pas conduites jusqu'ici, mademoiselle, votre fille seule a pu se permettre de venir jusqu'à ce coffre. Mais ma fille ne vient jamais dans mon cabinet. Ah, cependant, je viens de ramasser là, près du coffre, un bouton de gants de femme qui porte gravé dans le nacre ces mots: Miss Strange, WC, London. Le détective montra le bouton de gants au banquier, qui devint soudain très pâle, et il poursuivit. Bon, généralement, les boutons de gants sont mal cousus par les fabricants. Ils tiennent peu et causent souvent des petites scènes d'énervement ou de désespoir quand on les met pour la première fois. Mais celui-ci, dans un esprit pratique, a été recousu, consolidé, voyez, un fil plus fort est passé sur le fil du marchand. Paulin Broquet ajouta: La main qui revêtait ce gant a dû faire ici, devant ce coffre, un grand effort, un mouvement violent. En voici la preuve, le bouton a été arraché. Mais comme il était bien cousu, il a entraîné avec lui un petit morceau de peau, un bout de gant, qui a cédé à la violence, à l'effort. Le galant banquier. Vivement, le banquier dit au détective: Bon, ne vous arrêtez pas à ce détail qui n'a vraiment aucune importance. Je ne partage pas votre avis. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Une de mes amies de la haute société anglaise, de passage à Paris, Lady Bracewell, est venue me consulter pour certains détails financiers. C'est dans une poignée de main. Vous savez, les Anglais ont des chicken énergiques. Que le gant a craqué, que le bouton a sauté. Voilà l'explication. Paulin Broquet inclina la tête pour indiquer qu'il acceptait l'explication, mais il demanda encore: Quel jour avez-vous reçu Lady Braxwell? Jeudi dernier. Avant ou après l'encaissement des 100 000 francs? Après? Ah! Oui, je vais tout vous dire, ajouta un peu nerveux le banquier. Je venais de reconduire le compte de Jardelette et j'avais laissé les 10 paquets de billets de banque sur mon bureau. J'allais les mettre dans le coffre. Je les tenais en main quand l'huissier m'annonça mon fils. André entra presque aussitôt. Je n'avais pas le temps d'y ouvrir mon coffre, d'y loger les paquets, et cependant, je ne voulais, puisque je lui refusais de l'argent, que mon fils aperçût les billets dans mes mains. Alors vivement, je les ai enfoncés dans les poches de ma redingote. Ouais, c'est un moment tout fou naturel. Et ensuite? Et après une scène très pénible, je congédiai mon fils sans vouloir céder et sans rien lui donner. Quand il partit, je restai furieux, nerveux, comme vous devez vous en douter. Je tirai alors les billets de mes poches et enfin je les ai jetés sur un des rayons du coffre. C'est à ce moment qu'on m'a annoncé Lady Bracewell. Paulin Broquet, pendant tout ce récit, avait gardé l'immobilité la plus complète et tenu les yeux comme rivés à un dessin du tapis. Après une seconde d'attente, tournant la tête vers le banquier, « Encore une question, je vous prie, dit-il. Vous souvenez-vous d'avoir à ce moment fermé à clef ou seulement poussé la porte du coffre? Oh, je ne puis rien affirmer, seulement pousser peut-être. En tout cas, vous n'avez pas fait jouer la combinaison du mot secret. Non, non, je n'ai pas eu le temps. D'ailleurs, ce n'eût pas été correct. Et où se trouvait la clé? Dans la serrure? Non, sur mon bureau, dans mon trousseau. En partant, j'ai tout mis dans ma poche. Longtemps après? Non, presque tout de suite. Lady Bracewell venait me chercher pour une promenade au bois. J'avais pris l'engagement avec elle. Et avant de partir avec Lady Bracewell, vous ne vous êtes pas absenté d'ici? Oh, quelques secondes. Le temps de passer dans le bureau de Jacques pour lui dire que je sortais, qu'il est arrangé le soir sans m'attendre mes papiers, encaisser mon argent, mettre tout en ordre comme il faisait d'habitude. Lady Bracewell est donc restée seule devant un coffre à demi fermé, dont la clé se trouvait sur votre table à sa portée. Le banquier s'écria: Oh, monsieur Broquet, je vous assure que Lady Bracewell est au-dessus de tout soupçon. En souriant, le détective répliqua: Mais je ne soupçonne pas plus Lady Bracewell que votre fils André, que monsieur Raymond ou un quelconque de vos employés, ou même l'huissier qui pénètre dans votre bureau quand et comme il lui plaît. Ne voyez donc rien de blessant dans mes questions. Je résume. Je trouve un bouton de gant anglais, avec un bout de peau arraché dans un mouvement de violence ou de précipitation, au pied d'un coffre dans lequel 100 000 francs ont été déposés et pris. Lady Bracewell est restée seule pendant quelques instants. Voilà un fait. Je ne vous laisserai pas accuser plus longtemps, Lady Bracewell. Encore une fois, monsieur, répondit le détective, je n'accuse pas Lady Bracewell. Je vous demande seulement des détails pour mon enquête. Il reprit. Lady Bracewell avait sans doute un sac, comme c'est la mode d'emporter, en réticule. Oh, c'est gros même, très joli. Elle semblait y tenir beaucoup, certainement. Elle avait, je gage, enroulé le cordon à son bras. Elle ne s'en est pas séparée une seconde, ne l'a déposée nulle part, ne l'a même pas ouvert devant vous, pour y prendre un mouchoir, de la poudre ou un peu de rouge pour ses lèvres. Non, en effet, mais Lady Bracewell, qui a une peau de blonde exquise, se passe de poudre volontiers et n'use pas de fard. Compliment. Allons. Ainsi, galant cavalier français, vous avez en montrant à Lady Bracewell les beautés du bois, sans doute pris avec elle des rafraîchissements dans un des établissements sous la feuillée. Oui, au Pré-Longchamp. Et vous êtes rentré? Oh, pas tout de suite, je dois l'avouer. Le banquier reprit. Je possède à Meudon la villa Pompadour, qui appartenait à la célèbre beauté. J'en ai parlé à Lady Bracewell. Elle a manifesté le désir de la visiter. Promenade malheureusement gâtée par une averse, courte mais violente, qui nous a surpris au bout du parc. J'ai pu faire abriter Lady Bracewell sous une charmille, mais moi, j'ai reçu l'eau des feuilles dans le dos. Ma redingote était mouillée au point que, redoutant une bronchite, j'ai dû changer d'habit. J'ai quitté ma redingote et mis pour rentrer une jaquette en réserve à la villa. Et la redingote? Oh, je l'ai laissée aux mains de mon jardinier Antoine et de sa femme pour la faire sécher. Le lendemain, mon valet de chambre est allé la chercher, et c'est celle que je porte en ce moment. C'est parfait, déclara Paulin Broquet. Je vous remercie. Puis, revenant au coffre, il dit à monsieur Monnier: Voulez-vous maintenant qu'ensemble nous regardions dans le coffre? Oh, ce sera bien inutile. Je l'ai fouillé de fond en comble plusieurs fois depuis hier. Hier, vendredi, le lendemain du jour, vous avez encaissé les 100 000 francs. Oui, c'est hier, en effet, qu'ayant demandé à Jacques à quel article il avait passé cette somme, il m'a répondu qu'il ne l'avait pas trouvée dans le coffre. Ah, c'est avant-hier que monsieur votre fils a réglé sa différence de 30 000 francs. Oui. Oui, que je n'accuse plus Lady Bracewell, et que je ne charge pas non plus votre caissier. Mais mon fils, bon, j'espère qu'il voudra bien nous dire chez quel usurier il s'est procuré la somme. Pouvez-vous le prier de venir? Ben, André est avec sa sœur à Poitiers, chez leur grand-mère. Ils rentreront seulement demain. Ben, attendons à demain, donc. Voyons maintenant ce que contient le coffre. Je serais enchanté d'y découvrir vos 100 000 francs dans un coin inexploré. Le banquier ouvrit le coffre fort, qui montra en effet le plus grand désordre et témoigna d'une perquisition fougueuse. Dans ce coffre, M. Monnier serrait des documents personnels, des papiers, des dossiers et quelquefois de l'argent qu'il devait employer pour son propre usage, en dehors des affaires de sa banque. Paula Broquet se tint devant le coffre ouvert et du regard l'expertisa rapidement. « Voilà où j'ai jeté les 10 paquets de billets, » dit le banquier. Et donnant un coup de la main sur un des rayons, il indiqua « J'ai jeté là, comme ça, un journal, un programme des théâtres. » Paula Broquet suivit le geste du banquier. À son tour, il porta la main sur le rayon indiqué. Un à un, il prit les papiers en désordre qui étaient posés et les examina. Il ouvrait, feuilletait les dossiers, dans lesquels, par un de ces hasards touchant à l'incroyable, les paquets de billets de banque, ou tout au moins l'un d'eux, jetés avec violence, auraient pu se glisser. Et tout à coup, en souriant, il dit à M. Meunier, « Mercredi, vous n'avez pas fini de lire votre journal du soir ?»«
Oui, c'est exact, je n'y ai jeté qu'un coup d'œil, mais je le gardais plié dans ma poche pour le lire en rentrant. »
Vous aimez la musique, n'est-ce pas?
Oh, pas beaucoup.
Vous êtes cependant allé au théâtre mercredi soir.
Avec Lady Bracewell, qui, elle, est très musicienne, et voulait entendre une pièce nouvelle.
Voilà, avec le journal du soir, non lu, le programme de la représentation, probablement conservé, mieux gardé que les paquets de mille. Et voilà tous deux sur ce rayon, dans votre coffre-fort.
Oui, Lady Bracewell désirait conserver ce programme pour le nom des acteurs.
Mais comment ce vieux journal et ce programme ont-ils pu gagner cette place sur ce rayon?
Il se trouvait dans mon habit. Mon domestique a ordre de remettre dans les poches du costume que je vais mettre avec mon portefeuille et mon carnet tous les papiers contenus dans les vêtements que je quitte. J'ai en effet la manie de crayonner des notes, des chiffres, des indications sur le premier chiffon de papier qui me tombe sous la main. Je glisse le tout dans ma poche et j'en fais le relevé plus tard, ici, dans mon cabinet. J'ai dû poser ici, machinalement, ces deux papiers.
Chacun de nous, dit Paulin Broquet, a ses petites manies.
Moi, j'essaie de me promener ma loupe surtout, de regarder partout. Et c'est ce que je viens de faire ici.
Paulin Broquet se gratta le menton. Ce geste machinal indiquait chez lui une forte tension d'esprit. Puis, s'écartant du coffre-fort, il alla de nouveau s'asseoir dans le fauteuil qu'il occupait tout à l'heure et roula une nouvelle cigarette. Le banquier poussa la porte du coffre, vint reprendre sa place devant son grand bureau et tourna vers le détective des yeux anxieux. Il y eut un moment de silence. Puis Paula Broquet reprit. « Vous avez nécessairement fait part à M. Raymond de cette disparition. »«
Oui, c'est Jacques lui-même. Je l'avais chargé, ainsi que je vous l'ai dit, de tout arranger ici, de fermer mon coffre. C'est lui qui me signala le lendemain l'absence des 100 000 francs. » Tout en parlant, le banquier se mit à chercher nerveusement parmi les papiers amoncelés sur son bureau. « D'ailleurs, voici le bulletin journalier qu'il me laisse chaque soir. » Tenez, monsieur Broquet, voyez, en marge, il a écrit « Pas trouvé dans le coffre les 10 000 paquets de billets de 1 000 annoncés ». Paulin Broquet prit la feuille que lui tendait le banquier et se mit à l'étudier. « Ma confiance en la graphologie, dit-il au bout d'un instant, ne me permet pas de baser une opinion de cette gravité sur un semblable document. Je ne crois pas qu'il suffise de 3 lignes de son écriture pour faire pendre quelqu'un. Cependant, ce document m'étonne. L'écriture, de la catégorie commerciale, régulière, correcte, très lisible, a été tracée par une main absolument calme, posée, qui dénote une absence totale de réflexes nerveux, une parfaite tranquillité d'âme. Mais cependant, Jacques a dû éprouver une sorte d'émotion en ne trouvant pas l'argent que je lui ai donné. Oui et non.
Et si, ayant d'un autre côté trouvé l'argent là, à sa place, il m'a écrit ensuite qu'il n'y était pas, sa main devait fatalement trembler. Sa main qui venait de toucher mes billets. Ou bien alors il est doué d'une force d'âme, d'un pouvoir de dissimulation qui me permet de tout supposer, de tout redouter. Paulin Broquet allongea la main et arrêtant M. Meunier qui s'échauffait avec un sourire malicieux, il lui dit.
Ah, monsieur, maintenant, vous accusez formellement monsieur Raymond. Avant que le banquier ait pu ajouter un mot encore pour préciser ou nier cette accusation, Paulin Broquet le pria de faire venir monsieur Raymond. Monsieur Monnier appuya sur un bouton électrique qui se trouvait sur son bureau et téléphona. Quelques instants après, le fondé de pouvoir, le caissier principal de la banque Adam Monnier, parut. Jacques Raymond était un garçon de belle apparence, d'une élégance sobre, correcte. Il portait la barbe courte en pointe. Bien qu'il eût de peu dépassé la trentaine, un peu de gris à ses tempes, une ride profonde au milieu du front, indiquait le souci, le labeur. Ses paupières gonflées dénotaient de longues veillées sur les livres. Il avait les yeux froids des gens de chiffres, des hommes de finance, mais son regard était droit, franc. Sa physionomie ouverte attirait la sympathie. Paulin Broquet, dès qu'il apparut, le happa, pour ainsi dire, d'un coup d'œil, et l'enveloppa de son regard qui avait le pouvoir d'ouvrir les cœurs les plus fermés, de déchiffrer les âmes les plus mystérieuses et de percer les fronts les plus rebelles. Jacques se tenait devant le grand bureau de M. Monnier, comme sans doute il faisait chaque fois, attendant que le banquier lui fît connaître la vraie raison de son rappel. Et ce fut Paulin Broquet qui parla. « Monsieur Monnier, dit-il au fondé de pouvoir, vous avez déclaré avoir mis dans votre coffre 100 000 francs que vous n'avez pas retrouvés. » Jacques Raymond, tournant la tête vers le détective, l'écouta attentivement tout en le regardant sans manifester la moindre émotion. « Cette absence, cette disparition des billets de banque ne vous a pas étonné ?»« À vrai dire, répondit Jacques Raymond, elle m'a causé plus que de l'étonnement. J'en ai ressenti un choc au premier instant, très violent. Mais, réflexion faite, je me suis dit que M. Monnier, qui venait à l'instant dans mon bureau, en coup de vent, de me signaler simplement cet encaissement, contrarié sans doute par des visiteurs, pressé de sortir, n'avait pas eu le temps de déposer cet argent, n'avait peut-être pas voulu le mettre en place devant des tiers, et qu'il était sorti l'emportant intentionnellement ou par oubli, espérant le serrer au retour. Ne trouvant pas ici cette somme et sachant qu'elle ne pouvait s'égarer facilement, j'étais certain que nous la retrouverions le lendemain. Alors, j'ai simplement, au crayon, de façon à pouvoir l'effacer, signalé le soir même son absence. Et depuis ? Oh, c'était une affaire personnelle, ne touchant que M. Monnier lui-même. Cette somme ne devait pas passer par le service de la banque. Comme M. Monnier n'en a plus parlé, par discrétion, je n'ai posé aucune question à son sujet. « Parfait, je vous remercie. Ne vous préoccupez plus de cette somme, M. Monnier vous dira plus tard ce qu'elle est devenue. » Jacques Raymond salua et très simplement, sans trouble, se retira pour regagner son bureau. « Et votre opinion ?» demanda vivement le banquier au détective. Paulin Broquet se grattait le menton d'un doigt nerveux. À son front, un pli en coup de sabre, disait qu'il n'était pas content. Et au lieu de répondre à la question de M. Monnier, il pria le banquier de sonner l'huissier. L'huissier Jérôme, vieux militaire, la poitrine constellée de médailles, parut traînant un peu la patte. Durant plus de 20 ans, il passait ses journées dans l'antichambre de la banque, montait la garde à la porte du banquier, introduisait les visiteurs. Brave homme, dans toute la force du terme. Paulin Broquet savait parfaitement que, bien qu'il eût la faculté de pénétrer à tout instant dans le bureau du banquier, on ne pouvait en aucune façon le mêler à sa disparition des billets de 1 000. Il voulait seulement lui poser quelques questions auxquelles le vieux serviteur ne sut répondre qu'avec émotion. Ses réponses apprenaient à Paulin Broquet que personne, sauf Jacques, n'avait pu pénétrer dans le bureau du banquier. Paulin Broquet l'attendait assurément à cette déclaration. L'une d'elles, cependant, attira son attention et fit tressaillir M. Monnier. Jérôme, qui ne se doutait pas de la portée de ses paroles, à une question posée par le détective, répondit que M. Jacques, peu après le départ de M. Monnier, avait aussi, en hâte, quitté la banque. « Comment ?» s'écria M. Monnier, surpris. « Lui qui ne sort jamais pendant les heures du bureau. Il a laissé, quand j'étais pas là, sa banque sans directeur, sans chef. Monsieur Jacques m'a dit qu'il était forcé de s'absenter, pas pour longtemps, de faire attendre. Il est resté cependant plus d'une heure dehors. Heureusement, il n'est venu personne. Mais pourquoi cette absence ? Il m'en a rien dit, fit le banquier. Il faut savoir où il est allé pendant ce temps, ce qu'il a fait. Ah, nous allons lui demander. Monsieur Monnier allait décrocher l'appareil téléphonique. Paulin Broquet l'arrêta. Inutile, s'il est sorti. C'est assurément pour affaire de service. S'il ne vous a pas signalé cette absence, c'est qu'elle a eu aucune conséquence pour vous. Bon, restons-en là. Il congédia Jérôme, puis, comme le vieux serviteur allait sortir, il le rappela. Dans le bureau de M. Monnier, il prit alors une grande et forte enveloppe. Dans cette enveloppe, il glissa le journal du soir que mercredi le banquier n'avait pas lu et le programme de théâtre. Sous les yeux étonnés de M. Monnier, il cacheta cette enveloppe et dit au vieillard huissier « Veuillez aller faire apposer sur l'enveloppe, ici, à la fermeture, le timbre de la banque avec la date. » Le banquier, intrigué, demanda « Mais enfin, monsieur Broquet, vous mettez sous scellé ce vieux journal et ce programme, cela n'a aucune valeur pour notre affaire. »« Ça, mais monsieur, » répondit en riant le détective, « ça vaut peut-être 100 000 francs avec le bouton de gant. » Il débarrassa les mains de Jérôme de l'enveloppe, maintenant dûment timbrée et datée, et recommanda le secret au vieux serviteur. Puis il prit congé du banquier, lui demandant à lui également de ne rien dire de tout cela à personne. « Vous éloignerons ainsi, déclara-t-il, bien des tourments, des angoisses, des larmes, et nous nous éviterons pour plus tard de longs regrets peut-être. » Et sur le pas de la porte, il dit encore « N'en parlez à personne, pas même à Lady Brushwell. Oh, surtout, pas à elle. »
Paulin Broquet se met en chasse. Cette affaire, comme il lui arrivait chaque fois qu'il s'en présentait une de ce genre, en dehors du crime vulgaire, Paulin Broquet la prit à cœur et voulut la terminer au plus vite. Son plan de campagne fut promptement établi. En attendant qu'André revînt de Poitiers avec sa sœur, il s'attaqua aux deux principaux héros, mis en cause de façon différente, mais aussi grave, dans cette aventure. Pourquoi cette absence pendant une heure de Jacques Raymond? Pourquoi ce bouton de gant auprès du coffre pillé? Toute la question est là. Pour la résoudre, Paulin Broquet, qui possédait toujours méthodiquement, commença par s'occuper de Jacques Raymond et fit sur lui-même une enquête approfondie, sérieuse. Jacques Raymond était un garçon charmant, des plus sympathiques. Au premier aspect, tout plaidait en sa faveur. Mais Paulin Broquet, qui faisait cas, certes, de la première impression que produisait sur lui un individu, ne s'y fiait pas absolument. Il jugeait un homme non sur sa figure, mais sur ses actes. Cela lui évitait toujours la fâcheuse erreur. Cependant, il est des actes qu'un homme ayant telle figure ne peut commettre, de même que les arbres ne peuvent donner que des fruits annoncés par leurs fleurs. Il espérait donc que la vie privée de Jacques Raymond répondrait à la sympathie qu'attirait sa personne. Quête qu'à ce sujet, Paulin Broquet entreprit fut décevante. Jacques Raymond vivait avec sa mère, qu'il aimait beaucoup, à laquelle, en dehors de son bureau, des obligations mondaines ou de rares soirées de théâtre et de musique, il consacrait tout son temps. C'est ce que l'on disait de Jacques Raymond en le jouant. Mais ce l'on savait moins, c'est que souvent, entre la banque Monnier et le logis maternel, Jacques Raymond se rendait dans une maison du boulevard Haussmann où il passait une heure ou deux, et que dans cette maison, il venait parfois même dans la soirée. Or, parmi les nombreux locataires de cette maison, deux frappèrent l'attention de Bocquin Broquet, pour des raisons que sa logique, son instinct de déduction, nous signalèrent aussitôt. L'un était un ancien banquier, M. Lechesne, retiré depuis longtemps des affaires, et que les rhumatismes, la paralysie tenaient prisonnier à la chambre. Paulin Broquet dut aussitôt supposer, logiquement, que Jacques Raymond pouvait, en tant que fondé de pouvoir d'une maison de banque, avoir des relations financières avec l'ancien banquier. Mais le détective, poussant ses recherches de ce côté, apprit que M. Lechesne et M. Adam Monnier avaient été autrefois rivaux et s'étaient mis jurer une haine mortelle. Décemment, Jacques Raymond ne pouvait, occupant un poste chez M. Monnier, se rendre chez M. Lechesne. Paulin Broquet s'attacha de préférence à la deuxième piste, sur laquelle il lui semblait que Jacques Raymond, jeune, séduisant, ayant une situation enviable, devait s'aventurer avec plaisir. Au-dessus de l'ancienne banquier Lechesne habitait une charmante actrice, Mademoiselle Génal, que le public applaudissait à l'opéra comique. Or, Mademoiselle Génal étant fort jolie, et Jacques Raymond excellent musicien, Paulet Broquet ne douta pas un instant qu'ils dussent faire ensemble de la musique fort sentimentale. Cette hypothèse reçut une confirmation presque immédiate. Le hasard voulut que Paulin Broquet, tout en poursuivant son enquête, fut à même de voir sortir de la maison Mademoiselle Génal et Jacques Raymond, tous deux se souriant, heureux de vivre leur jeunesse. C'était l'heure de se rendre au théâtre. Jacques héla une auto, y fit monter Mademoiselle Génal et sauta prestement auprès d'elle. Paulin Broquet se gratta le menton en souriant. « Hé, hé !» fit-il. « Le fondé de pouvoir supporte plutôt très allègrement la perte des 100 000 francs faite par M. Monnier. » Le détective ne voulut pas s'en tenir à cette constatation. De même qu'il ne se fiait pas aux physionomies, il se gardait de s'arrêter aux apparences. Aussi, le premier acte de la pièce dans laquelle paraissait Mademoiselle Génal commençait-il à peine que Paulin Broquet prenait place à l'orchestre, non loin du fauteuil qu'occupait le mélomane caissier principal. Une nouvelle surprise attendait le détective au spectacle. Ses yeux, qui eussent pu rivaliser avec ceux du lynx, perçurent, dans la pénombre d'une baignoire, une femme grande, blonde, extrêmement jolie, dont le profil bien découpé, le nez légèrement relevé et le menton saillant, accusait le type de la vraie Anglaise. C'était la première fois que Paulin Broquet voyait cette femme charmante. Cependant, il se dit aussitôt son nom. « Lady Breswell !» Et il le prononça avec d'autant plus de certitude que derrière elle, l'effleurant, la serrant de près, comme tout à l'heure Jacques et Mademoiselle Génial dans l'auto, se tenait le banquier Adam Monnier. Ainsi donc, pensa le détective, les habitués de la banque Monnier se sont donné rendez-vous ici ce soir. Et il ajouta, toujours à part lui, de meilleur encore dans la poche de l'habit du banquier, un programme de théâtre et un journal du soir, dont, comme pour le Paolo de Francesco di Rimini, on a pu achever la lecture. Dans les coulisses d'un théâtre, Paulin Broquet cultivait lui aussi beaucoup la musique. C'était avec la peinture son délassement favori. Il avait à l'opéra comique ses grandes et petites entrées. Ce soir, il lui prit fantaisie d'aller faire un tour sur scène. Il arriva sur le plateau au moment où des camarades complimentaient Mademoiselle Génal, qui pour la première fois arborait un pendentif en diamant, en forme de roue, contenant deux Z enlacés à la façon hindoue, déclaré porte-bonheur infaillible. C'était la fête de Mademoiselle Génal. Des bouquets emplissaient sa loge. Elle se montrait heureuse de tous ces témoignages d'amitié, de sympathie, et complaisamment laissait admirer sa roue de diamant, permettant à ses camarades, superstitieuses comme toutes les femmes de théâtre, d'y toucher pour avoir un peu de bonheur. « Oh, ça vaut au moins 20 000 francs !» déclara une camarade. « Au moins, oui !» fit Mademoiselle Génal. « Mais la valeur du bijou est pour moi surtout dans le souvenir qu'il évoque. »« Qui te l'a donné, ce souvenir ?» demanda une autre plus curieuse, plus indiscrète. En riant, mettant un doigt devant ses lèvres rougies, Mademoiselle Génal s'échappa par un détour, disant « Chut, secret !» Le bonheur des uns ne va jamais sans la jalousie des autres. Une camarade à qui son physique ingrat ne permettait pas d'espérer, même en comptant sur l'anomalie du cœur ou de la passion des hommes, un pareil présent pour sa fête avec un ton pointu, avec une voix arrosée de vinaigre, dit à une autre voisine « Peuh ! À quoi bon vouloir faire des mystères ? On sait bien que c'est son petit banquier qui le lui a donné. » « Jacques, fit l'ami, ben naturellement. » Le cri de l'avertisseur, criant « En scène !»« Pour le deux !» empêcha Paulin Broquel d'en entendre plus long. Il en savait d'ailleurs suffisamment. En outre, il se dit que, pour ce soir, il en avait assez, même de musique. Il quitta donc le théâtre, sauta dans son auto, et se fit conduire dans un de ces magasins de la rue Royale où se vendent des fleurs merveilleuses, qu'on n'envoyait autrefois que dans les rêves ou chez les fées des contes dorés. Paulin Broquet fit l'acquisition d'une corbeille, l'emporta et, remontant dans son auto, se fit conduire boulevard Haussmann chez Mademoiselle Génal. Une moustache fine qu'il colla sous son nez, une perruque demi-chauve aux cheveux artistement ramenés, un monocle qu'il vissa dans son orbite, et l'air satisfait, béat, qu'il sut prendre, le rendirent semblable au bon viveur parisien que les caricaturistes ont popularisé. « Je tenais, dit-il à la camériste qui vint lui ouvrir, apportez-moi même ces fleurs, Mademoiselle Génal, pour sa fête. Elle ne s'en doute pas, ça va être une belle surprise pour elle. » Et riant de ce petit rire stupide que ces bons viveurs affectent quand ils font une sottise qu'ils croient une farce spirituelle, il déclara qu'il serait heureux de placer lui-même son panier fleuri dans le salon, bien en vue, parmi les autres. La camériste ne put s'opposer à cette fantaisie, d'autant plus qu'un louis, bien que glissé dans la main, pesa tellement sur sa langue qu'elle ne parvint pas à formuler la moindre objection. Elle conduisit le viveur au salon, qu'emplissaient en effet de nombreux bouquets, des gerbes et des corbeilles. Le joyeux viveur, avec une indiscrétion que son louis, croyait-il, autorisait, se mit à lire les cartes épinglées aux envois. Sur chacune d'elles, il faisait un jeu de mots qu'il jugeait très amusant, car, de confiance, il riait de plus belle de son rire stupide. Puis, ayant enfin trouvé la bonne place pour sa corbeille, il s'éclipsa enchanté, riant encore dans l'escalier de la bonne farce dont il était l'auteur. Une fois dans son auto, Paulin Broquet se hâta de déposer ce ridicule accoutrement et de redevenir lui-même. Moustache, perruque et monocle mis en boîte, il tira de sa poche une carte qu'il avait subtilisée chez Mademoiselle Génal. « Avec mes meilleurs souhaits, disait cette carte, à la délicieuse artiste, à la charmante amie. » Cette carte était celle de Jacques Raymond. Or, Paulin Broquet avait trouvé le Bristol non épinglé à des fleurs, mais déposé sur une petite table et voisinant avec l'écrin vide qui avait contenu la roue en diamant porte-bonheur. Alors les paroles de la camarade à la voix du vinaigre lui chantèrent à la mémoire. Mais la carte de celui qu'on appelait au théâtre le petit banquier était cependant percée de 2 trous d'épingle. Et devant cette anomalie, car on n'épingle pas une carte qui accompagne un écrin, devant ce problème nouveau, Paulin Broquet, intrigué, une fois de plus, se gratta le menton. Le détective n'avait pas encore trouvé la raison plausible de ces deux trous d'épingle quand son auto s'arrêta devant la porte de la maison qu'il habitait. Cette soirée, commencée au théâtre, il devait l'employer tout autrement qu'à écouter Mademoiselle Génal. Peu après, en effet, il sortait de chez lui et se faisait conduire avenue de Wagram. Le Family House. Paulin Broquet avait couvert son chef d'une ample casquette de drap, glissé entre ses dents une énorme pipe de bruyère. Un vaste manteau l'enveloppait entièrement. Maintenant, il jouait l'anglais qu'il voyage. Son auto s'arrêta à la porte d'une maison très confortable, occupée entièrement par une pension anglaise, un family house où descendaient les voyageurs d'outre-Manche qui préfèrent la quiétude et la commodité d'un home aux turbulences des grands hôtels modernes. Et c'est dans ce family house qu'était descendu Lady Bracewell. Paula Broquet parlait admirablement la langue du roi George V. Ayant vécu longtemps en Angleterre et assidûment étudié les Anglais en voyage, il fut absolument pris pour un gentleman débarquant de la gare du Nord. On lui assigna un appartement. Il s'en déclara satisfait, mais à la servante qui le guidait, il demanda « On ne fait pas trop de musique, n'est-ce pas, dans la maison ? Pas de romance sentimentale, pas de valse lente chantée, pas de piano surtout ?» « Mais non, monsieur, » répondit la servante. « Oh, je voudrais pas être réveillé demain matin par de la musique. Monsieur n'a pas à redouter cela. Mais cependant, Lady Bracewell, qui m'a indiqué cette maison, est ici en ce moment. C'est une terrible musicienne. Elle commence de bonne heure son tapage au piano. Est-ce que son appartement est loin du mien ?»« Oh, assez, monsieur, là, au bout du couloir, le 8. » D'ailleurs, Lady Bracewell n'a pas de piano chez elle. Ah, alors me voilà rassuré. Je vais bien dormir. Bonne nuit. Paisible family house. Il semblait qu'on y eût attendu ce dernier voyageur pour que tout le monde allât se coucher. Maintenant, c'était le bon, le calme silence, le repos des intérieurs anglais. Paulin Broquet n'était pas venu ici pour dormir, on s'en doute. Il ne se coucha point, mais alluma d'abord une cigarette, puis, assis dans un profond fauteuil, il se mit à la griller, en gourmet, lentement. « Oh, j'ai le temps, » se dit-il, « 11 heures à peine. Lady Bracewell est au théâtre. Après le spectacle, elle demandera, comme toute bonne anglaise ou américaine, à aller souper dans quelque restaurant de nuit, où elle éprouvera la désillusion habituelle de ceux qui espère assister à des scènes fantastiques, comme celles que dépeignent les livres sur la Babylone moderne. Puis elle rentrera vers 2 heures du matin. C'est plus qu'il ne m'en faut. » Il se demanda en outre, « Mais quelle est cette Lady Bracewell ? Une vraie lady ? Réelle femme du monde ? Ou une de ces aventurières « adventurous girls » comme ils disent ? Sa cigarette finie, quand il eut bien acquis la certitude que tout dormait dans la family house, il quitta son fauteuil, ouvrit doucement la porte de son appartement. Avec une légèreté, une souplesse dont le meilleur rat d'hôtel eût été jaloux, il se glissa dans le secret corridor et arriva à la porte de l'appartement qu'occupait Lady Bracewell. Ouvrir, grâce à son merveilleux passe-partout, la porte du numéro 8, sans faire entendre le moindre bruit de gâchette, le plus faible grincement de gond, fut un jeu pour le détective. Il pénétra dans l'appartement qui semblait tiède encore et gardait la trace parfumée de l'absence. Paulin Broquet ne tourna pas le bouton électrique pour se donner de la lumière afin de ne pas se trahir. Mais il s'éclaira au moyen de sa petite lampe de poche garnie d'une ampoule bleue, jetant une lueur blafarde, insensible pour ainsi dire, au loin, et qui ne se révélait pas au dehors. Cette lueur lui suffit pour voir que, comme toutes les jolies femmes, toutes les femmes, Lady Bracewell avait mis beaucoup de temps à sa toilette. Tout était sans dessus-dessous. Elle avait dû changer rapidement et chercher dans les caisses vides
vivement dans les boîtes, sans perdre le temps de les refermer, comptant sur la servante pour réparer ce désordre. Paulin Broquet, fouillant du regard dans tout cela, aperçut dans un coin, près de la cheminée, jeté au rebut avec des papiers de soie froissés, une paire de gants blancs. Il la ramassa, l'examina, et comme il s'y attendait, trouva une déchirure près du poignet, reconnut le trou qu'avait laissé le petit bout de peau arraché avec le bouton de nacre. Précieusement, Paulin Broquet glissa cette paire de gants dans sa poche. Tournant les yeux de l'autre côté, il vit sur une table, dans un mélange de dentelles, de rubans, de pompons à poudre, d'épingles, d'or à cheveux, de poignes d'écailles blondes, près d'une coupe pleine de bijoux, de bagues, un réticule. « Ah, ah !» fit-il, « le fameux réticule si précieux, dont Lady Bruswell ne se sépare pas, qu'elle n'ouvre jamais devant le monde. Voyons ce qu'il peut bien contenir. » Sans être arrêté par le moindre scrupule de délicatesse, il ouvrit le réticule. Il eut alors un sourire. « J'y comptais presque, » dit-il. Le réticule offrait, en petit, le même aspect de désordre que l'appartement. Pêle-mêle, il contenait les objets les plus hétéroclites, les moins faits pour se trouver ensemble. Et parmi tout cela, roulé, froissé, comme tout le reste, un paquet de billets de 1 000 francs. Paulin Broquet les compta. Il y en avait 9 seulement. Un manque, dit-il. Lady Bruswell l'a employé. Voici d'ailleurs sur la cheminée quelques billets de 100 et 50 francs des louis de la monnaie. Paulin Broquet regarda alors le talon retenant les 9 autres billets. C'était un carré de papier assez fort. Et sur ce carré de papier se lisaient quelques mots tracés en lettres russes. « Ces billets viennent donc, » dit le détective, « de la société russo-nippone, comme les 100 000 francs de M. Monnier. » Très délicatement, Paulin Broquet enleva l'épingle du talon et prit ce talon. Dans le premier morceau de papier venu, il découpa un carré semblable à celui qu'il prenait, il le mit à la place de celui qu'il emportait et l'épingla aux 9 autres billets de 1 000. « Lady Bruswell, » fit-il, « ne s'apercevra pas demain de la substitution. » Mais, prévoyant le cas où une objection pourrait se faire plus tard contre le talon au caractère russe qu'il saisissait ici, Paulin Broquet alla jusqu'à la table où Lady Bruswell avait déployé le nécessaire à correspondance qu'une Anglaise emporte toujours avec elle. Il trouva là un bâton de cire à cacheter spécial, parfumé, rose, avec des paillettes d'or. Dans la coupe aux bijoux, il prit une bague portant une grosse pierre gravée. Il fit couler un peu de cette cire sur le talon à caractère russe, y appuya la pierre, et eut ainsi un cachet dont nul ne pouvait contester l'origine. Puis il se retira et s'éloigna comme il était venu, apportant ses précieuses convies à sa conviction. Le lendemain, la servante venue pour demander si monsieur voulait son breakfast, ne trouva personne dans l'appartement de Paulin Broquet. Une lettre placée en évidence contenait le prix convenu et avec un bon pourboire des excuses pour un départ aussi singulier.